que ça va, que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
On peut composer une pièce de musique en assemblant des bouts, mais à entendre la musique en segments, reste à savoir quels principes ont pu commander leur segmentation. Si bien que la segmentation peut agir à plusieurs niveaux de la composition et par suite ouvrir l'écoute par différentes échelles. Au cours d'un concert donné au Festival Sono Mundo, le guitariste Omar Nicho et le saxophoniste Iñaki Bermudez ont présenté des pièces justement très segmentées du compositeur Keita Matsumiya et, commandée par la Maison de la Musique Contemporaine, une création de la compositrice Imsu Choi. Au cours de cette heure très segmentée de métaclassique, nous interrogerons Keita, Iñaki, Omar et Imsu sur leur pensée de la segmentation. Leurs pensées viendront segmenter l'écoute d'une version jouée pour et enregistrée par métaclassique de leurs deux pièces, à commencer par Déviation de Keita Matsumiya.
À quel moment de l'élaboration de votre musique intervient quelque chose de l'ordre de la segmentation? Est-ce que c'est avant d'écrire la moindre note, ou bien après un certain nombre de notes, ou bien peut-être bien après avoir cumulé beaucoup de matériaux comme une espèce d'ordonnancement final?
Merci David pour votre question. Alors, ma manière de lancer la composition est plutôt axée sur la recherche des sonorités intéressantes que peuvent produire les instruments, avant même de penser à la structure temporelle de la pièce. C'est un peu comme composer une palette de couleurs pour une peinture où j'assemble progressivement les matériaux en fonction des sons que je souhaite obtenir. On pourrait peut-être qualifier cette organisation des caractéristiques des matériaux de segmentation.
Iñaki Bermudez, quand vous interprétez la pièce de Keita Matsumiya, vous sentez que c'est comme réparti par couleur ?
Oui, bien sûr. En fait, notre formation, c'est déjà assez particulière. Guitare, saxophone, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent.
Ouais.
Donc, déjà, comme départ, c'est quelque chose de spécial. Et après, la pièce de Keita, c'est vrai qu'il utilise beaucoup de couleurs, des techniques pour les instruments très précis. Et peut-être des techniques que j'avais pas à vous jusqu'à l'instant où j'ai commencé à bosser la pièce de Keita, ou quand même j'avais pas travaillé de cette façon là.
Est-ce qu'on peut dire que ces techniques vont justement servir d'unité de temps à des bouts de la pièce, à des segments?
Ah, d'accord. Je pensais que vous parliez de couleurs. Si c'était vraiment. Oui, c'est ça que je voulais dire en fait.
C'est ça.
En fait, j'ai trouvé qu'il a vraiment cherché des sonorités différentes.
Et que cette palette fait segmentation, en fait. Que chaque couleur devient une unité de...
Oui, je dirais en fait qu'il a utilisé des palettes différentes pour chaque mouvement. Donc pour moi, c'est surtout... C'est vrai qu'après, dans l'intérieur de chaque mouvement, il y a aussi des différentes segmentations. Et les couleurs font la grande partie de cette segmentation.
Par exemple, dans le cas présent, il s'agit d'un duo de saxophone et de guitare. Je prends en compte des différentes sonorités que chaque instrument peut produire, telles que les bruits des clés de saxophone ou le son étouffé de la guitare, et j'essaye de les faire correspondance, comme associer le slap tang au pizzicato de Bartok, afin de mettre en évidence les différences sonores entre chaque segment.
Et en fait, c'est curieux parce que parfois, même les bruits de clé, on a utilisé l'angle pour faire ces sonorités parce que ça dépend où ça marche mieux avec le son de la guitare. Parce qu'après, chaque saxophone, les bruits de clé, c'est pour chaque saxophone, c'est un peu différent. Ça dépend même si tu as bien nettoyé les saxophones ou si c'est bien réglé, non ? Les sonorités qu'il fait. Donc parfois, même, on a utilisé même les pupitres. Quelquefois qu'on avait soin de quelque chose de vraiment fort et assez sec, on a utilisé même les pupitres pour faire ces sons.
C'est-à-dire de taper le pupitre contre l'ange du saxophone.
Oui, ouais, il y a un moment qu'on a utilisé ça, mais quand même...
Alors, si je comprends bien, la segmentation intervient jusque dans un choix de mode de jeu qui va être démultiplié pour segmenter d'autant plus.
Oui, c'est exact. Chaque mode de jeu possède ses propres sonorités, matériaux harmoniques, profils sonores, durée et résonance qui contribuent à la segmentation. Et ce qui est important, c'est d'imiter ces caractéristiques à l'aide de différents instruments. C'est un peu comme jeu de mots, mais cela crée une sorte de passe-passe entre eux. On produit l'effet d'une orchestration, donne naissance à un sens et permet d'atteindre des segmentations plus élevées.
Vous l'entendez, la segmentation plus élevée ? Il y aurait plusieurs niveaux de segmentation ?
On parle harmoniquement ?
Apparemment, il y a des segments qui peuvent se définir par les sonorités. Et il parle aussi de jeux de mots. Qu'est serait l'équivalent des jeux de mots dans cette pièce ?
Jeux de mots, ça veut dire comme jouer avec des expressions ?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu drôle dans la pièce, on dira, parce qu'il joue un peu avec les différentes techniques qu'il utilise.
Ah oui, qui prend comme des idiomes, en fait.
Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de retours entre la guitare et le saxophone qui s'imitent ou qui font des choses amusantes, on dira.
Oui.
Même il y a dans, je me souviens pas dans quel mouvement c'était parce qu'il y a déjà quelques mois qu'on avait joué la pièce, mais je crois que c'était le deuxième ou le troisième mouvement qui en faisait des il y a kiss, écrit. Donc je faisais une sorte de bisou quand je jouais.
Un bisou au bec?
Non, en fait, je prenais les becs vraiment dans la bouche.
Oui.
Et je faisais cette son et après, j'ai joué tout de suite. Donc, je m'entraînais un peu pour faire ça très vite parce que sinon, l'embouchure, c'est difficile de l'avoir prêt tout de suite.
Oui.
Mais quand même, c'était drôle aussi pour le public.
Omar Nitcho, comment est-ce que vous comprenez la façon dont Kaitsa Matsunaga arrive à faire cette espèce de liaison entre la notion de profil sonore et des jeux de mots?
Profil sonore et des jeux de mots?
Ben, en fait, il semblerait penser les profils sonores comme des espèces de...
nouvelles phrases qui on pourrait
combiner
de manière différente,
ouais.
Décortiquer.
Et peut-être leur faire dire autre chose que ce pourquoi elles sont venues.
Complètement. J'aimerais bien m'arrêter sur un geste, par exemple, un moment donné, non sur la... je veux dire, pas aujourd'hui, mais en travaillant cette pièce encore une fois, j'aimerais bien prendre un geste juste pour voir comment... comment est-ce que le reste du mouvement ou du passage comporte des éléments qui sont à l'intérieur de ça, non? Parce que ce que je comprends dans la description, c'est comme si il parle d'un mode de jeu qui est dans sa pièce. Ils sont abondants, ils sont très très différents les uns des autres. Et je me demande par exemple qu'est-ce qu'il peut trouver comme palette. Lorsqu'il demande une harmonique très précise, je ne sais pas s'il parle de segmenter ces moments où on joue telle harmonique à telle hauteur, ou probablement il pense à des gestes plus complexes, non? Qu'à la guitare, on peut faire très très simplement un geste très complexe, comme un espèce de trémolo sur plusieurs cordes, et... Ça, déjà, ça me donne une image de plus de diversité, timbrique en tout cas, parce que le moment où les ongles rentrent en contact avec la corde qui est étouffée, il y a plusieurs armes. Il y a le son des matières des cordes, il y a le son des ongles, il y a le son il y a les harmoniques de l'instrument. J'aimerais voir plus précisément peut-être son processus, non? Et sa description, comprendre un peu mieux. De quoi il parle, parce que déjà dans tous les éléments que je viens d'écrire, juste sur ces gestes, je me souviens du début du troisième mouvement, par exemple, le menuet, on fait ces gestes-là, mais comment il dispose les éléments, du coup, comment il les sectionne, c'est...
Ouais. Ça, parce que alors précisément sur le trémolo, il dit un truc pour la guitare. Je crois que c'est là.
Si vous étendez un trémolo de guitare d'une seconde à cinq secondes, si vous y pensez en termes d'enregistrement, le son que vous produisez en cinq secondes serait un gros grain de son, le résultat d'un lent mouvement de doigt.
Complètement. Dans ce que je comprends, c'est justement étirer ce qui serait une seconde, un geste qui durerait une seconde, et l'analyser de l'intérieur, non? En l'étendant et en regardant ces éléments au ralenti. Oui. Là, on peut voir sa composition interne, non? Comme si on prend un élément de la nature, on prend un morceau de pierre, on l'analyse avec le microscope, et on peut voir ses différents composants, non? Et puis passer à un autre endroit du laboratoire, analyser plus précisément dès l'intérieur les éléments qui composent ces morceaux de roches, de pierres. Et ça me semble très, très intéressant parce que je me demande du coup comment ça peut impacter la forme des mouvements qu'il a créés, non?
Thank you.
Bien avant de partir étudier en France, je m'intéressais à la musique de Tristan Mireille et de Michael Levinas. J'ai obtenu mon diplôme dans une université japonaise en musicologie avec la recherche sur l'école spectrale. En parallèle, j'ai également pratiqué la musique informatique, l'improvisation, les installations sonores. Après cela, je suis venu en France pour étudier à la classe de composition et d'analyse musicale au Conservatoire de Paris.
Parce que il parle de la musique spectrale et il parle aussi de l'improvisation en même temps dans son parcours. Et je trouve que la pièce, il joue beaucoup avec ça, avec la matière du son. Et c'est pour ça que j'avais dit que peut-être j'avais pas vu avant ce genre de technique. C'est pas que j'ai pas vu les techniques, mais j'ai pas travaillé comme ça. Parce qu'on change vraiment la façon comme on joue quand on joue avec la guitare. Ce sont des instruments aussi loin l'un de l'autre, qu'on doit vraiment jouer avec la matière du son, comme il disait. Et comme il parlait de la musique spectrale, c'est pour ça que ça m'a rappelé ça aussi, de l'improvisation, non? On essaye de sortir de ce cadre, de comme se jouer les saxophones ou la guitare classique ou contemporain. On dira, quand on essaye de faire un son qui est un son pas joli, mais précis quand même, sortir même de ça et jouer avec la plasticité du son, pour trouver quelque chose qui fait que ces deux instruments qui sont aussi loin trouvent un moyen, un chemin, en comment.
À force de vivre ces différentes expériences, je me posais toujours plein de questions. Je voulais comprendre ce que les compositeurs ressentaient dans toute cette énergie qui nous entoure depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, les tempêtes, le flux de l'eau, le son des cloches, et comment ils interprétaient ces phénomènes, comment ils les déchiffraient, les segmentaient et les exprimaient en musique.
Est-ce que vous vous rappelez dans quel contexte est-ce que vous avez rencontré cette idée ou notion de énergie sombre et comment est-ce que vous l'avez introduite alors en musique?
La rencontre avec l'énergie sonore, oui, ce dont je me souviens, c'était pendant mes études en art multimédia au Japon, dans ma vingtaine. En cours, nous avons réalisé une expérience où nous avons fait vibrer le bâtiment de verre de l'université à l'aide des grands transducteurs. Cette expérience m'a permis de découvrir l'énergie sonore transmise par résonance. J'ai pu vivre l'expérience dans un espace acoustique très mystérieux où le son semblait envelopper tout mon corps sans savoir d'où il provenait. Une autre rencontre à la même époque a été avec Molutos Prango Vivos Fico de Jonathan Harvey. J'ai été frappé en écoutant la transformation de la voix d'un jeune garçon en synthétiseur et en son de cloche.
Bermudez, est-ce que vous comprenez pourquoi cette pièce de Jonathan Harvey, Molutos Prango, est si importante pour Keita Matsumiya? Pourquoi est-ce que ça l'a travaillé d'entendre cette voix devenir synthétiseur en quelque sorte?
C'est vrai que j'entends comme les voix se ménagent un peu avec les autres sons. Donc il joue un peu avec ces sortes de plasticité qu'on a dit avant. Bien sûr, on a écouté juste un petit fragment, donc je devrais écouter toute la pièce pour vraiment comprendre, parce que peut-être que c'est sermenté aussi comme il avait dans sa pièce.
Ah oui.
Je sais pas. Maintenant, on a juste un petit matériel de ça qu'il utilise. Mais bien sûr, je peux comprendre un peu ce qu'il veut dire.
Bien que j'ai déjà connu la technique de morphing à travers le clip vidéo de Black or White de Michael Jackson, où les visages de différentes races se transforment, c'était une expérience nouvelle et émouvante de le ressentir clairement à travers les oreilles. Ces deux expériences ont été une révélation pour moi en termes d'énergie sonore. De plus, ces deux formes d'énergie sonore étaient déjà ressenties lorsque j'ai découvert l'utilisation de tambours de caisse claire dans l'appel de Levinas.
Donc là, c'est un extrait de Metrio, une pièce pour basson de Pierluigi Bilone. On retrouve, hein, par rapport à la pièce de Keïta, une idée d'avoir une idée sonore qui devient un moment, et puis il y a un autre moment. Enfin, la forme devient une collection, en quelque sorte, de recherche d'un son.
Oui, et surtout qu'il parlait de cette palette des couleurs et oui. Des sons. Et je crois que c'est un exemple, par exemple, de ça qu'il parlait, de comment on prend la plasticité, mais dans un même instrument.
Oui.
Et on joue avec toutes ces couleurs en déformant les sons originels. Thank you.
Après, j'ai remarqué que cette transition ou transmission d'énergie sonore est présente et utilisée dans divers contextes musicaux. En musique électroacoustique, il existe des techniques telles que la juxtaposition, le chevauchement, le fondu enchaîné et d'autres. En musique informatique, j'ai appris des techniques telles que l'extraction de structures comme l'analyse harmonique, l'analyse en suivi de partiels ou l'interpolation des harmoniques. Dans l'improvisation musicale, j'ai utilisé des changements progressifs d'éléments répétés pour passer d'un état à un autre, tout comme une transition de point A à point B. Je pense que tous ces éléments sont liés à l'énergie sonore et à sa propagation. Cependant, j'ai également compris que telles émotions de transition d'énergie existent également dans les techniques instrumentales et les structures musicales traditionnelles de compositeurs comme Mozart, Beethoven, Ravel et d'autres. Dans ma pièce « Déviation », j'ai été inspiré par le plaisir de l'édition qui consiste à rassembler les différentes structures de l'énergie sonore pour en faire une suite à la manière de Bach.
Parce qu'il parle alors moins d'énergie sonore que de structure d'énergie sonore, c'est-à-dire qu'il va chercher une espèce de principe à l'intérieur de ça.
Comme si les éléments du son, les différentes parties.
Ouais, ils visent quelque chose de matriciel dedans. Ou...
C'est ça, comme Beethoven, le sol, mi bémol, non, et les distances intervalliques, et ensuite ce que ça donne pour les formes plus tard, les structures des mouvements. Oui, complètement. Je vais certainement dire une bêtise, mais je me demande si c'est pas justement un des grands compositeurs qui est classique, non, qui transmet cette tradition, c'est Haydn, non, qui est professeur de Mozart et de Beethoven, et qui justement dans son écriture on voit cette émergence à partir d'une cellule qui peut donner plus tard des formes, des phrases, des structures, justement. Et ça me paraît extrêmement intéressant que Keïta se soit lancé dans le parallélisme, non, de chercher à analyser un composant, enfin les composants.
Et de les déployer sur plusieurs paramètres.
Exactement, ouais. Sur plusieurs niveaux. En plus, il évoque Bach aussi. Et on connaît très bien les ritournelles chez Bach et comment il se sert de chaque élément pour créer les différents passages de sa pièce. Et Bach, entre autres, non, mais...
Parce que son rapport à Beethoven, il passe par Lévinas, mm-hmm. Et il est très marqué par l'évocation de l'orage dans la pastorale de Beethoven, telle que Lévinas la pense.
Le son d'un coup de percussion ou celui d'une explosion et d'un choc peuvent être considérés de la même manière. Mais selon qu'on les examine de manière macroscopique ou microscopique, ils peuvent paraître différents. Ce qui semble être un seul impact peut être perçu au niveau microscopique, comme une série d'impacts accompagnés de résonances formant ainsi une perspective fractale. Pour l'anecdote, Michael Levinas, avec qui j'ai étudié l'analyse musicale, m'a dit un jour que lorsque Gérard Griset, Tristan Murail et Levinas étaient étudiants, ils parlaient de la scène de l'orage dans la pastorale de Beethoven, où l'attaque des cordes est suivie d'une deuxième attaque des bois et du cuivre et d'un trémolo de la contrebasse. Levinas m'a dit qu'il parlait de ce qu'il voulait pour créer ce type de musique. On peut dire que c'est une musique qui représente le groupe d'attaque, l'énergie changeante. J'ai trouvé très intéressant d'entendre les discussions des grandes figures de l'école spectrale des compositeurs au début de leur carrière sur le processus de morphing de l'attaque, de l'écho et de la résonance, qui est également lié à la pensée de Claude Debussy et Pierre Boulez.
Waouh.
Ah, il a une sacrée...
Quelle ampleur.
Digestion de la musique française du XXe siècle.
Ouais.
dans ses points conceptuels les plus ténus. Alors, donc, c'est comme s'il annulait une sorte de dualité entre microscopie et macroscopie par l'idée de fractal. Mmh. Et en même temps, il y a cette idée de morphine dans la transitoire d'attaque.
Mmh.
Qui est son écoute de l'orage dans la pastorale de Beethoven passée par les spectros.
Oui, 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 oui.
C'est pas rien.
C'est ça.
Et qu'est-ce que ça dit à l'interprète?
Pardon. Qu'est-ce que ça dit à l'interprète? Bah, déjà,
Juste le point pastoral. Alors attends,
c'est ça, j'y pensais.
Ouais.
Aux impacts, que... à comment. Oui, Beethoven, il a voulu générer cette sensation-là, cet impact-là musicalement, non? Cette expression. Un impact et une résonance, un écho, un résultat. Je ne sais pas comment le dire. Comme quoi, il n'y a pas juste l'attaque, en fait.
Oui, 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 c'est ça. Mais c'est-à-dire que l'attaque, c'est... Enfin, parce que quand on écoute Déviation, cette pièce, on a l'impression de quelque chose de très staccato. Et à la guitare, précisément, ça ne s'étend pas. Ça vibre pas beaucoup, c'est très, très sec. Mmh. N'empêche que c'est pourtant, à l'écouter, un compositeur qui réfléchit beaucoup sur tout ce qui se passe à l'intérieur d'une attaque. Et donc, on aurait tendance à penser qu'il en étire les enjeux. Alors, comment ça se joue, ça? Ça veut dire que... Il faut créer un grain de l'attaque.
En même temps, je pense qu'on est deux dans l'histoire.
Et qu'ils pensent toujours les deux ensemble.
Probablement.
Ça, c'est très clair. Ouais.
Probablement. Et que ce qui fait que mon début du geste ou mon attaque peut être le début d'une dissonance qui va être finie par l'autre.
Non? Par enfin, le saxo, ouais.
Ou l'inverse, non? Le tout début du prélude dans Déviation, c'est un peu ça, en fait. Le saxophone, il joue des pizzicato de guitare. La guitare, elle fait du vent avec la percussion, en fait. Et il y a beaucoup, ça, il y a beaucoup ce point de rencontre, en fait, de timbrique.
Mais ça veut dire d'essayer de faire du saxophone avec la guitare? Parce que ça, c'est une idée qui retient beaucoup de l'enseignement d'Alexandros Marqueas, l'idée d'imiter d'autres instruments que les siens.
Mon cher professeur d'improvisation, justement.
Mais il vous a aussi tiré vers ça?
Il nous a inspiré de différentes façons. Ça m'étonnerait pas qu'il nous ait déjà parlé de justement, vient compléter la patte sonore. Contexte électroacoustique, de trouver les points, ce point milieu, non? Ce point au milieu entre ces deux pôles et pouvoir faire corps, en fait, faire une seule patte sonore entre ces deux éléments qui sont si distincts, qui ont des caractéristiques différentes, des puissances différentes et tout.
Mmh.
Et donc c'est un travail que oui, il a beaucoup aidé à inspirer chez moi. Et dans une pièce comme celle-ci, comme celle de Keïta, on est obligé d'avoir cette écoute. Le saxophoniste et le guitariste sont obligés d'avoir une oreille attentive, ou qui en tout cas a l'ouverture de pouvoir traduire ce que l'autre il est en train de créer comme sonorité pour pouvoir que ce soit trouver une patte parallèle qui pourrait fonctionner avec, enfin un timbre, non, qui pourrait fonctionner avec, ou un timbre contradictoire ou à mi-chemin qui pourrait bien...
J'en arrive à présent à me demander alors pourquoi la pièce s'appelle Déviation, parce que en effet, s'il y a autant d'énergie à chercher dans les transitions, je comprends bien qu'il y a nécessité de bifurcation, tandis que le fait de prendre Déviation comme titre laisse penser que la bifurcation devient une destination, ce qui est au minima paradoxal, non ?
Oui, comme vous le savez, le titre de cette œuvre, Déviation, signifie bien sûr contourner. C'est une façon pour les deux interprètes de faire un grand détour à travers cinq mouvements, dans le sens où, grossièrement, cela représente le présent comme un détour pour comprendre le passé, ou le passé comme un détour pour comprendre le présent. De telles pensées sont incorporées dans ce titre. Ce morceau est une suite composée de cinq pièces suivant le modèle des suites de l'époque baroque. Deux ludes, un prélude et un interlude, alternant avec deux danses, une gavotte et un minuet. Bien que les époques, les régions et les genres musicaux différents, tout comme Bach a assemblé des pièces de différentes époques, régions et genres pour former une suite, j'ai pensé que placer la techno à la fin à la place de la toccata gravifiait le concept de cette suite. Que ce soit en écoutant des morceaux de danse classique dans un salon, ou de la musique techno ou house dans un club, ce qui importe, ce sont le mouvement vertical et horizontal, la méditation et la danse. Un jour, Claude Ledeux m'avait dit que quelque chose comme ça dans son cours d'analyse musicale. En fin de compte, toute la musique du monde se résume à être faite pour prier ou pour danser. En d'autres termes, cette œuvre est comme la création d'un album de musique de club noise, mais sous la forme d'une suite baroque.
Ça me paraît très très intéressant d'entendre qu'il évoque les cultures asiatiques et comment elles sont présentes dans la forme, non, du prélude, de l'interlude. Comment, quand on pense par exemple à Analap, non, un prélude en musique indienne, qu'on commence avec un seul élément, une seule note, puis on ajoute les notes une à une, petit à petit, selon un ordre spécifique. Ça me rappelle un peu les éléments qu'on voit, pas la forme, non, pas le même développement, mais l'horizontalité surtout des mouvements 1 et 4. Présence des danses et aussi des rôles qu'elles ont dans la forme globale de la suite, c'est aussi un élément très très marquant. Mais on a souvent la sensation d'être face à deux personnes qui essayent de danser ensemble, mais qui au final se rendent compte que ça ne marche pas. Mais ça marche parce que c'est écrit comme ça, c'est écrit pour donner l'impression que la danse elle est un peu désarticulée, qu'elle est tant déborde, que la métrique déborde, mais néanmoins, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on soit dans un même élan, dans une même recherche une même recherche gestuelle. Et puis l'interlude aussi, son horizontalité, bien sûr.
Et dans la pièce d'Im Sushoy, est-ce que la répartition des unités de temps, des segments, est du même ordre, tient aux mêmes aux ingrédients?
Que dans la pièce de Keita?
Oui.
Non. Dans la pièce de, la pièce de Keita, c'est vraiment segmenté par mouvement. Ouais. Pour commencer, la pièce d'Im Su, il n'y a pas de mouvement comme ça.
Oui, c'est comme d'un trait, oui.
Oui. Alors, il y a des différents sermons, mais il y a des sermons qui reviennent après, par exemple, qui sont caractérisés beaucoup avec les tempos que s'écrit et aussi avec les palettes de couleurs qu'elle utilise, les techniques. Mais c'est pas aussi segmenté comme la pièce de Keita.
Im Sushoy, qu'est-ce qui segmente quoi? Quelle est l'unité de segmentation?
Je pense que d'abord, le pouvoir de unir qui segmente.
Le pouvoir d'unir, ouais.
Oui, parce que, alors moi, je m'intéresse beaucoup à comment construire la cohérence avec des différentes idées. Donc, quand je compose, tout début, je fais une sorte de brainstorming de toutes les possibilités de chaque instrument et des combinaisons, des timbres, etc.
Donc un peu comme un balayage des possibles.
C'est ça.
Ouais.
Et donc ça c'est vraiment tout début de la composition, même avant la composition. Et ça m'intéresse beaucoup à, avec les différentes idées, de construire une unité.
Voilà. Et alors, c'est au moment où arrive l'unité qu'ensuite il y a une resegmentation pour faire un petit peu ressortir tout ce qui a été collecté de façon justement si hétérogène?
Je pense qu'il y a toujours quelque chose de travail aller-retour. Donc, ce n'est pas une direction qui commence. Je segmente des choses. Et
est-ce que c'est au point de devoir soigner les coupes, leurs tranchants, justement, pour faire ressortir cette segmentation?
Oui. Tu peux répéter, s'il te plaît.
Je me demande s'il n'y a pas des staccato de sortie, par exemple, des façons de couper qui font ressortir l'énergie de la segmentation.
Exactement. Donc, quand il y a le segment, moi, je pense plutôt à... il y a division de parties. Et dans chaque partie, ça, on peut diviser en phrases. Donc moi, je pense plutôt des phrases qui segmentent. Donc dans la phrase, il y a pas un seul élément musical. Donc il y en a plusieurs pour construire la phrase. Donc il y a quelque chose qui commence la phrase et voilà, il y a la désinence, sorte de désinence aussi. Ouais. Et pour passer une à l'autre, moi, souvent, dans ma musique, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de contraction, ouais. Et quelque chose qui stagne pour pouvoir passer à l'autre. Donc, il y a la répétition, donc variation qui devient accélère.
Et cette chose qui stagne, c'est elle qui fait coaguler l'espèce d'unité spécifique de ce segment, par exemple.
Je ne connais pas le mot coaguler.
À coaguler, ça. c'est quelque chose qui atteint une espèce de solidité à force d'être ensemble, en fait, c'est ça. C'est à force d'être ensemble que ça devient solide.
C'est ça, oui, c'est ça. Donc, ça. Voilà, avec les 7 contractions, je peux passer à l'autre. Donc, c'est la conséquence, du coup.
Donc ça veut dire que on ne peut pas segmenter tant que tel segment n'est pas devenu un peu organique. Un peu comme un organe. Un peu comme...
Oui, je sais, pas tant pour ça.
Est-ce que l'unité de chaque segment est obligée d'être différente de l'unité du segment voisin?
Alors, moi, dans ce cas, ici, il y a plutôt les intuitions qui viennent pour construire, peut-être je dis souvent la phrase, mais
ouais.
Donc, oui, je cherche. Pour moi, je trouve quelque chose qui est naturel de... d'organiser avec les contrastes.
Oui, mais une fois que vous avez tout plein de contrastes, tout plein de segments justement contrastés entre eux, quand est-ce que vous savez qu'il y en a assez de segments?
Pour moi, donc ça c'est pas les systèmes, donc pas les nombres. Enfin, il y a toujours quelque chose travail. Intuitif, mais je me répète, pendant le travail de composition, je ne suis pas le système qui est obligé que ce soit segmenté, Mais je suis plutôt en gauche droite avec une sorte de la forme un peu établie dans ma tête, mais qui n'est pas dominante.
Je sais pas. Oui, mais y a, c'est quoi l'idée?
Donc, moi, je... j'imagine une sorte de dramaturgie avec, dans ma musique, avec les instruments qui coupent et... je sais pas comment parler.
Les instruments qui se coupent entre eux, ils disent quelque chose?
Ah non, je veux dire, c'est plutôt qui déclenche l'autre.
D'accord.
Donc il y a une partie qui déclenche l'autre. Et donc il y a plusieurs possibilités donc, qui est en premier plan avec les sons de granulaire, pendant que l'autre qui fait le fond harmonique pour le soutenir.
Ouais.
Ou il y a d'autres parties que... l'un déclenche l'autre, qui répond ensuite. Et donc, il...
En fait, moi, comme musicien, déjà, j'ai découvert des choses que j'avais jamais vues avec cette pièce. Parce que la compositrice, elle travaille avec des techniques pour créer des atmosphères très jolies avec des techniques comme je dis que j'avais jamais vu, que ça nous ramène dans des endroits que chaque fois que je suis allé avec cette pièce, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Alors pour le public qui vient, je dirais d'être prêt avec toutes les affaires qu'ils ont pour découvrir cette main.
Enfin, est-ce que la réponse est un autre segment par rapport à la question?
La réponse est un autre segment.
C'est-à-dire ce que tu obtiens...
Alors, c'est oui et non, parce que la réponse, ça peut être la prolongation de ce qui est avant.
Donc la suite, oui.
La suite ou... ces variations pour pouvoir passer à l'autre. Pour
mais alors,
avancer.
Par exemple, variation, est-ce que c'est un autre segment ou une réplique d'un segment?
Alors, ça dépend des variations. Donc,
oui.
réplique, ça existe pendant la contraction.
Ouais.
Contractation.
Oui.
C'est quoi le premier?
La question, c'est est-ce que quand il y a un jeu de questions-réponses,
oui.
Est-ce que la réponse est un autre segment que la question? Ou est-ce que c'est deux bouts du même segment?
Ah, dans ce sens de réponse entre les deux instruments.
Ouais.
D'accord, moi je pensais plutôt dans les phrases, dans les linéarités.
Ah oui.
Non, pas forcément.
Oui. Oh, une autre façon de poser la question serait de se demander est-ce que les segments se répondent entre eux?
Je pense oui. Oui. Ça m'intéresse beaucoup les idées de granulation. Donc, qui est, je trouve que vraiment au niveau plus bas de segmentation, on segmente et ça reste les grains.
Oui.
Donc, en éléments sonores, j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup avec les.
Les timbres.
Le son des grains, oui.
Oui, et puis aussi les détails dans ce que j'ai remarqué dans la partition, là, des sons qui sont entre un geste, en fait, aussi. Enfin, c'est-à-dire pas seulement une attaque, mais tout ce qui va être à l'intérieur de cette attaque-là. Et j'ai remarqué que oui, tu te sers de ça aussi pour écrire, par exemple. Mais je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que tu disais.
Et c'est que je sais... le jeu de Iñaki aujourd'hui, parce qu'on entend vraiment les granulaires dans ton multiphonique, donc ça se marie très bien avec les sons de la guitare et voilà.
Est-ce que les bruits de clétage font partie de ce grain?
Bruit de l'éclétage.
Les clés, le bruit des clés sur le saxophone et clac clac clac. Parce que je crois qu'il aime pas trop.
Non, en fait, j'aime quand c'est demandé, mais comme on enregistre aujourd'hui dans un studio qui est très très sèche, très sec, non? Donc on entend tout, comme j'avais dit avant, l'émission du son, les bruits des clés. Donc c'est pas que, par exemple, dans la pièce de Keita, il y a quelques fois qui vraiment il faut faire ces sons, ces sortes de sons percussifs, non? Dans la pièce de Imsu, peut-être. Je ne sais pas si tu voulais vraiment les sons des clés. Je me souviens pas, mais je crois qu'il n'y a pas un endroit spécifique où il faut sonner les...
Il y en avait quelques endroits, mais tu m'avais proposé avec les doigts. Donc, moi, c'était
oui.
Plutôt les idées que des sons absolus. Donc... Thank you.